l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 13, pour commencer. Voilà, Matthieu, chapitre 16, verset 13. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. » Puis, toujours dans l'évangile de Matthieu, mais cette fois au chapitre 1er et au verset 18. Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et enfin, un dernier passage qui se trouve, celui-là, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 30. Voilà, évangile de Jean, chapitre 20, verset 30, où il est écrit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. » Voilà, nous revenons dans un premier temps à ce passage de l'évangile de Matthieu où Jésus, s'adressant à ses disciples, leur dira, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et si l'on posait la question, chers amis, qui est Jésus pour vous? Alors, il y a toutes sortes de réponses qui sont faites à ce propos. Vous voyez, pour certains, Jésus, c'est une légende. Il n'a jamais existé. Et tout ça, c'est des histoires destinées à impressionner les gens un petit peu naïfs, un petit peu crédules, pour mieux les mener par le bout du nez. Pour d'autres, Jésus, c'était un homme admirable du fait de son sens de la justice, de son désir de défendre les faibles, les pauvres, les opprimés. Pour d'autres, c'était une espèce de révolutionnaire qui s'est dressé contre l'ordre établi et qui a été éliminé par ses ennemis. Pour d'autres, Jésus, c'était un prophète. Alors, toutes ces réponses ne sont pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle que Pierre, n'est-ce pas, a prononcée en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus s'est réjoui à l'égard de son disciple bien-aimé, de son apôtre, en lui disant « Eh bien, tu es heureux, parce que ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire les réflexions de ta propre intelligence qui t'ont permis de comprendre cela. » Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé, Jésus. Ça veut dire que Jésus est lui-même Dieu, voyez-vous ? Dieu qui s'est fait homme tout en restant Dieu. Parce qu'il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Cet enfant qui naît dans la crèche de Bethléem, n'est-ce pas, dont nous célébrons l'anniversaire de sa naissance tous les 25 décembre chaque année, eh bien, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, nous l'avons lu, ça signifie Dieu parmi nous, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous. Alors, pourquoi Dieu s'est-il fait homme en Jésus-Christ ? Pourquoi ? Eh bien, ce miracle, car c'en est un, l'on appelle le miracle de l'incarnation, Dieu qui prend forme humaine, Dieu qui se fait chair, chair humaine, pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi Dieu s'est-il fait homme en Jésus-Christ ? Tout d'abord, nous apprend l'Écriture pour nous témoigner, nous démontrer sa compassion et nous secourir dans toutes nos misères. Il y a un passage de la Bible qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit ceci, c'est que Jésus, ayant été éprouvé lui-même dans ce qu'il a souffert, peut secourir ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont dans la souffrance. Voyez ? C'est pour cela qu'il a voulu vivre tout ce que nous vivons nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Quand on lit les pages des évangiles, on s'aperçoit que tout ce qu'on peut traverser comme aventure et mésaventure humaine, Jésus les a vécues, Jésus les a expérimentées. Il a connu la fatigue, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la douleur. Pensez aux douleurs qu'il a subies lors de sa crucifixion. Il a connu la tristesse, il a connu l'angoisse. L'Écriture nous rend témoignage qu'il a connu aussi la frayeur. Et puis aussi la mort. Il n'est aucune sorte de souffrance que Jésus n'ait pas connue. Un texte du prophète Ésaïe dira qu'il fut l'homme de douleur habitué à la souffrance. Vous voyez, lorsqu'on suit Jésus à la trace, et c'est possible de le faire au travers de la lecture des évangiles, on s'aperçoit que Jésus n'a pas eu une vie de facilité, une vie parfaitement confortable, sans problème. Non, à chaque pas, ses ennemis étaient là pour les piller, pour l'observer. Et finalement, l'ont arrêté, l'ont injustement condamné et l'ont crucifié. Il fut véritablement l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et dans ce qu'il a souffert lui-même, eh bien, étant passé par là où nous pouvons passer nous-mêmes, il peut nous comprendre. Vous savez, il n'y a rien de tel pour comprendre les autres que de vivre ce qu'eux-mêmes sont en train de vivre. Hein ? Lorsqu'on n'a pas éprouvé la même douleur, la même souffrance, lorsqu'on n'a pas vécu le même drame, on ne peut pas véritablement comprendre. On ne peut pas compatir d'une manière authentique. Mais Jésus compatit avec toutes nos misères, quelles qu'elles soient, physiques, morales, matérielles, spirituelles, affectives, parce qu'il est passé par là. Il s'est fait homme. Il nous comprend parfaitement et d'autant mieux, il est en mesure de nous aider, de nous secourir, de nous délivrer de nos détresses parce qu'il a vécu ce que nous vivons. Voilà, si vous êtes confronté à un problème, quel qu'il soit, d'ordre physique, d'ordre moral, d'ordre affectif, voire d'ordre matériel, spirituel, le Seigneur vous comprend, il sait, il connaît. Ce que vous vivez, il compatit avec vous, il n'est pas éloigné, il n'est pas distant, il n'est pas indifférent. Non, il sait parfaitement ce que vous éprouvez et il veut vous tendre une main secourable pour vous tirer d'affaire, alléluia, pour vous manifester sa puissance, son amour, sa grandeur et sa miséricorde. Jésus, c'est Dieu qui se fait homme également pour expier nos péchés et pour nous permettre d'en recevoir le pardon de nos péchés. Il faut comprendre une chose, c'est que la sainteté de Dieu et sa parfaite justice exigent que le péché reçoive un juste châtiment, une juste condamnation, une juste sanction. Et à la garde du péché, il n'y a qu'une sanction qui puisse lui être appliquée au péché, la mort. Pourquoi l'Écriture dit, c'est un verset très souvent cité, le salaire du péché, c'est la mort. Un autre texte, moins connu peut-être, dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et encore un autre texte dit, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La mort s'est étendue sur tous les hommes, voyez, c'est une loi universelle, parce que tous ont péché. Mais pourtant, dans son amour, Dieu veut sauver le pécheur. Alléluia. Voyez, d'une part, il y a sa justice, sa sainteté qui exige, qui nécessite que le péché soit sanctionné, puni, châtié, et le pécheur qu'on en est. Et d'autre part, il y a son amour qui fait que Dieu veut sauver le pécheur. Lui épargner la condamnation que pourtant il mérite. Dieu veut le sauver, l'arracher à la malédiction du péché. Alors comment? Comment concilier la justice et l'amour? Comment faire en sorte que, à la fois, le péché soit sanctionné et qu'en même temps le pécheur soit pardonné, soit sauvé? Comment? Pour qu'il en soit ainsi, il fallait qu'un homme s'offre volontairement. Il fallait qu'un homme, livre sa vie en sacrifice, en subissant à la place de tous les autres hommes, le châtiment qu'ils avaient mérité pour leur péché. Il fallait qu'un homme paie pour les autres. Il fallait qu'un homme soit condamné à la place des autres. Mais il fallait que cet homme soit parfait. Il fallait que ce soit un homme sans péché qui puisse se charger du péché de tous les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si Jésus n'avait commis, ne serait-ce qu'un seul péché, il aurait été lui-même passible de la condamnation. Et sur lui, personnellement, la sanction aurait dû s'appliquer. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour qu'il puisse payer pour les autres, il fallait que, quant à lui-même, il soit sans péché. Et ce fut le cas avec Jésus. Alléluia. Il était sans péché. Oh, pourtant, la Bible dit qu'il fut tenté comme nous en toutes choses. Le diable ne lui a pas fait de cadeau, mes amis. Le diable ne lui a pas épargné. Et depuis sa venue au monde, jusqu'au moment où il a rendu le dernier soupir sur la croix du calvaire, le diable a multiplié les tentatives pour essayer de le faire tomber dans le mal, de l'amener à succomber à la tentation. Mais gloire à Dieu, il a su résister jusqu'au bout en toute chose et toujours, en toute occasion, repousser victorieusement les assauts de la puissance diabolique et rester pur, saint et parfait. Alléluia. Ah, mes amis, devant ces pires accusateurs, il pouvait dire, mais qui d'entre vous me convaincra de péché? Ses pires ennemis étaient obligés de dire, nous savons que tu es droit, que tu es juste et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Pilate, dites-moi, Pilate, le gouverneur romain qui pourtant l'a envoyé à la croix, dira, quel témoignage! Je ne trouve en lui rien qui soit digne de mort. Il était parfait. Et cet homme parfait, eh bien, il a pu, par son sang versé à la croix, eh bien, payer le prix, verser la rançon par laquelle nous sommes rachetés de nos péchés, la rançon par laquelle nous pouvons obtenir un plein pardon. C'est pour ça que dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, verset 5, il est écrit, il y a un seul Dieu. Vous avez remarqué, tout le monde est à peu près d'accord avec ça, hein? Vous parlez avec un juif, vous dites, ah oui, il y a un seul Dieu. Vous parlez avec un musulman, il vous dira, ah, il y a un seul Dieu. Vous parlez même avec un témoin de Jéhovah, un mormon, ou je ne sais trop qui, un catholique, un protestant, un orthodoxe, ou un autre, ils vous diront tous, il y a un seul Dieu. Mais la Bible continue en disant, il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et le texte précise, Jésus-Christ, homme. Vous voyez, c'est important ça. Jésus-Christ, homme qui s'est offert en rançon pour tous. Elle est merveilleuse, la parole de Dieu. Hein? Elle nous met les idées en place. Voyez, la Bible, c'est ça qui est de merveilleux. C'est pas baroque, c'est pas farfelu, c'est pas tarabiscoté. Ça tient debout. Il y a une logique à la foi, voyez. Jésus-Christ, homme, cette précision est importante, qui s'est livré en rançon pour tous. Sa vie a été, sa vie innocente, parfaite, pure, sans tâche, sans péché, a été le prix versé à la croix du calvaire pour que par ce prix versé, le prix de son sang, nos péchés puissent être pardonnés, que notre âme soit rachetée de la malédiction. Gloire à Dieu! Il y a un fardeau de malédiction qui repose sur nous, sans que nous le sachions. Tant que nous demeurons loin du Seigneur, voyez, comme une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de notre tête, tant que nous sommes dans le péché, tant que nous demeurons dans l'incrédulité. Mais lorsque nous nous confions en Jésus, la malédiction est ôtée, gloire à Dieu, parce que Jésus a servi de rançon. Et, d'autre part, comme il était sans péché, non seulement il a pris nos péchés sur lui, subissant à notre place le châtiment que nous méritions, mais comme il était sans péché, la mort n'a pas pu le retenir. Gloire à Dieu. Et c'est la victoire de la résurrection. Hein? Jésus est ressuscité et il est allé auprès de Dieu, son Père, dans le ciel. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et là-haut, en tant qu'homme glorifié, oui, il est Dieu. Mais même là-haut, mes amis, réalisez-le, chrétiens, il demeure le Fils de l'homme. Quand Étienne est sur le point de subir le martyre, il a une vision. Et il dit, voici, je vois qui ? Je vois le Fils de l'homme, debout, à la droite du Père, à la droite de la majesté divine. Voyez ? Il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Mais il est aussi le Fils de l'homme, l'homme glorifié. Mais l'homme tout de même. Et à la droite du Père, que fait-il ? En tant qu'homme glorifié, il prie pour les autres hommes. Amen. La Bible dit, Hébreux chapitre 7, verset 25, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, je vous ai dit qu'il a vaincu la mort, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Intercéder, c'est quoi ? Intercéder, ça veut dire littéralement se tenir entre deux parties qui sont en opposition pour les réconcilier, pour les ramener l'un vers l'autre. Eh bien, Jésus dans le ciel, c'est ce qu'il fait, voyez ? Il se tient entre le Père et nous. Le Père qui a été offensé par nos péchés et nous qui l'avons offensé par nos péchés. Et il veut nous réconcilier avec le Père. Et c'est pour cela qu'il intercède pour nous. Il prie pour nous, comme il a prié pour Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Chaque fois qu'un pécheur se repent, chaque fois qu'un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, un enfant, comme on l'a entendu tout à l'heure, ou un adolescent, sur la terre, là, s'humilie devant Dieu, dit « Oh Seigneur, pardonne ma misère ». Pardonne mon péché, pardonne ma folie, pardonne mon égarement, pardonne, pardonne, je t'en prie, le mal que j'ai commis. Chaque fois qu'un pécheur se repent, chaque fois qu'un pécheur fait appel à Jésus, lui fait confiance, Jésus là-haut prie le Père en faveur de cette personne. Alléluia. Il prie le Père, il plaide la cause du pécheur repentant auprès du Père et il obtient de la part du Père le pardon pour ce pécheur en question. Amen. Voyez, en quelque sorte, Jésus, c'est notre avocat. Eh oui, d'ailleurs, un texte le dit, n'est-ce pas ? L'Écriture dit dans la première épître de Jean, si quelqu'un a péché, et qui n'a pas péché ? Mais tout le monde a péché. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. S'il y a là, cet après-midi, dans ce lieu, un garçon, une fille, un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, quelqu'un qui va là, dans le secret de son cœur, à la fin de cette réunion, invoquer Dieu et dire, Seigneur, je regrette profondément toutes les fois où je t'ai offensé, pardonne-moi. Là-haut dans le ciel, Jésus va se lever à la droite du Père. Il va prendre la parole comme l'avocat devant le tribunal le fait. Et il va dire, Père, souviens-toi que pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune homme, pour cette jeune fille, pour cet enfant, pour ce vieillard, j'ai donné ma vie sur la croix. Alors certes, il t'a offensé, certes, il t'a affligé, certes, il a provoqué ton juste courroux, mais j'ai payé le prix du pardon en sa faveur. Alors Père, je t'en prie, maintenant, fais-lui grâce. Et vous savez quoi? La Bible dit que la prière de Jésus, elle est toujours exaucée. Amen. Hein? Je ne sais pas si vous pouvez en dire autant, en toute honnêteté. Hein? Mais Jésus pouvait dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Ainsi, mes amis, par la médiation, par l'intermédiaire, je dirais par la plaidoirie, l'intercession, la prière de Jésus en notre faveur, lui, Jésus, auprès du Père, il obtient notre faveur, le plein pardon de nos péchés, le plein salut de notre âme, quelle que soit la mesure de notre misère, quelle que soit l'ampleur de nos fautes. Parfois, mes gens m'ont dit, monsieur, si vous saviez ce que j'ai fait, si vous... Je ne veux pas savoir. C'est une affaire qui vous concerne, qui est entre Dieu et vous. Mais sachez que si vous vous réclamez de la personne de Jésus, celui qui est en Dieu s'est fait homme, vous obtiendrez un plein pardon, une pleine délivrance. Votre vie prendra une nouvelle tournure, votre destin prendra une nouvelle orientation. Vous ne serez plus jamais le même, parce que par l'intercession de Jésus, eh bien vous recevrez la grâce de Dieu. Alléluia. Et puis aussi, pourquoi s'est-il fait homme, lui qui est Dieu? Eh bien, il s'est fait homme parce qu'un jour, eh bien, il reviendra du ciel, lui, Jésus, le Fils de l'homme, pour chercher ce qu'il appelle ses frères. Eh oui, parce qu'à partir du moment où nous devenons les disciples de Jésus, nous sommes ses frères. Nous sommes ses frères. Et ses frères, ce sont ceux qui ont cru en lui, et il viendra les chercher pour les amener dans son royaume éternel, où ils demeureront pour toujours en sa compagnie. Je ne sais pas trop comment ça sera dans le ciel, mais je sais que ce sera formidable. Vous savez, parfois j'ai de drôles d'idées. Je me dis, tiens, je pense à un ami qui est décédé, à quelqu'un qui est auprès du Seigneur. Je me dis, mais là, à la minute où je parle, qu'est-il en train de faire? Vous n'avez jamais réfléchi à ça, hein? Vous n'êtes jamais dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est en train de prier, d'adorer, de louer Dieu, de chanter des cantiques avec les anges, de jouer de la harpe ou de notre instrument? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font là-haut. Mais je sais que c'est merveilleux. Et que vienne le temps où le Seigneur viendra nous chercher, n'est-ce pas? Lui, Jésus, le Fils de l'homme. Alors résumons-nous. Pourquoi y a-t-il eu ce mystère et ce miracle de l'incarnation? Pourquoi Dieu, en Jésus-Christ, s'est-il fait homme? Eh bien, nous l'avons dit, pour nous témoigner de sa compassion et pour nous secourir dans toutes nos misères, pour expier nos péchés et nous permettre d'en recevoir le pardon, pour intercéder auprès du Père en notre faveur et pour revenir un jour nous chercher et nous amener avec lui. Ah! Mais pour qu'il puisse, amis, accomplir tout cela pour vous, vous devez croire. Vous devez croire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Vous devez être capable de prononcer la même confession de foi que celle de l'apôtre Pierre, qui est « Qui suis-je pour vous ?» Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous devez croire qu'il est Dieu qui s'est fait homme. Et quand nous parlons de foi ici, la foi dont il est question, voyez-vous, n'est pas simplement une adhésion intellectuelle. La foi dont il est question ici, c'est la foi du cœur. Alléluia. La foi du cœur qui consiste à remettre au Seigneur Jésus-Christ notre vie, à faire de lui le maître de notre existence. Êtes-vous disposé à faire ce choix ? À faire de Jésus le maître de votre existence, celui que vous aimerez désormais par-dessus tout et par-dessus tous. celui désormais que vous servirez de tout votre cœur et auquel vous obéirez avec empressement. C'est ça la croix, la foi. Êtes-vous prêt à croire? Voulez-vous croire ainsi? Voulez-vous vous engager dans ce chemin-là? Oh, ce n'est que bénéfice, mes amis. Parce que, et c'est là le dernier texte que nous avons lu, je vous le rappelle, dans l'évangile de Jean, il est dit ceci, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et attention, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Il s'agit là, bien sûr, de la vie éternelle. Que le Seigneur soit béni et qu'il vous aide à faire ce choix et que vous puissiez dire, « Seigneur, je crois que tu es plus qu'un grand homme, je crois que tu es plus qu'un prophète, je crois que tu es plus qu'un être exceptionnel, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, je crois que tu es Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné pour venir à ma portée et me communiquer la grâce dont j'ai besoin. Je crois en toi, Seigneur, et je te livre ma vie. Voulez-vous faire ce pas de la foi, ce pas de l'engagement, ce pas qui consiste à dire, Seigneur, je te donne ma vie, sans restriction et sans réserve, je suis à toi, désormais et pour toujours, alors dans le ciel, alléluia, il y aura de la joie. Parce que la Bible dit que dans le ciel, il y a plus de joie, même pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'auraient pas besoin de repentance. Que le nom du Seigneur soit béni. Recueillons-nous quelques instants.